Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Linden. Fred est à la mise en onde. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Après la fusillade du 2 décembre 2016 perpétrée à San Bernardino par un couple musulman radicalisé, le président américain Barack Obama avait appelé ses concitoyens à éviter toute stigmatisation des musulmans. De son côté, Donald Trump, candidat républicain à la course à la Maison-Blanche, lançait lui un appel à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Ces derniers jours, il a évidemment mis un peu d'eau dans son vin, soulignant que ce ne sont pas tous les musulmans qui seront concernés par cette décision, mais plutôt les ressortissants de certains pays musulmans. Quoi qu'il en soit, la peur du terrorisme pousse beaucoup d'Américains à avoir envers les musulmans une attitude de méfiance. Ce 4 juillet 2016, les États-Unis célèbrent leur fête nationale, la 240e du genre. Comment se sent-on quand on est musulman aux États-Unis et que pensez-vous de cette méfiance que certains Américains affichent à l'égard des musulmans? Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, beaucoup d'invités. Nous avons Madame Zainabou Touré. Madame Zainabou Touré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musulmane, vous êtes médecin de profession et vous êtes dans le Nord Dakota. C'est bien ça?
Oui, c'est juste.
Vous restez avec nous. Nous avons également, depuis le Tchad, le professeur Ahmad Mahamad Hassan. Il est constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena. Professeur Ahmad, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, comme toujours, pour votre fidélité à ce programme. Nous vous reprendrons dans un très court instant. À Washington, j'allais dire ici, aux États-Unis, nous avons également Imam Farouk. Imam Farouk, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci. Merci pour votre fidélité. On sait qu'on s'achemine vers la fin du Ramadan. Alors, ce sujet, qu'est-ce que vous pensez du regard méfiant que les Américains ont envers les musulmans? Je vais commencer par Madame Zainabou Touré.
Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Je suis très enchantée de me retrouver sur le plateau aujourd'hui. Ça, c'est un problème qui existe. On ne peut pas l'ignorer dans la communauté qu'on vit actuellement. Mais quand il s'agit, pour moi, de parler par rapport à ce que je vis du jour au jour au travail, à l'hôpital où je suis actuellement, je peux dire que je travaille comme je l'entends. Je suis senior consultante ici et je participe aux réunions dans l'administration. Je suis écoutée, vous dites la vérité. Pas seulement écouter, mais mes propos aussi sont tenus en considération. Bon, et la méfiance, elle est là. On ne peut pas la nier. La méfiance est là et je vous dis que j'ai causé très sérieusement avec le pasteur de notre hôpital et vraiment qui compatit avec la méfiance qui sévit actuellement et ça se voit.
Voilà.
Surtout avec tout ce qui se passe, ce que les gens regardent à la télé. Mais la réalité est que les uns et les autres sont conscients de ce qui se passe. Bien vrai que la majeure partie ne sont limitées que ce que les gens disent à la télé. Mais en tout cas, dans l'ensemble, la méfiance est là, on peut le dire.
Voilà.
Je le connais, mais ça va.
Donc, il y a méfiance, mais pour votre cas particulièrement, vous avez l'air de bien vous porter. Alors, professeur Ahmad, quel regard vous jetez sur la méfiance que beaucoup d'Américains ont envers les musulmans vu du Tchad?
Écoutez, la religiosité et l'intégrisme aujourd'hui est beaucoup dans toutes les régions que les religions et le monde est confronté à cette nouvelle donne. Mais simplement au niveau de la religion musulmane, c'est assez aigu. Les Américains ne font pas l'exception parce qu'il est établi, en fait, aujourd'hui, la religion musulmane, qu'est-ce qu'on peut dire, elle est assimilée à la violence, elle est assimilée au djihadisme, elle est assimilée à toutes les formes de religiosité aiguë qui, on utilise la religion comme une forme de revendication sociale, économique, politique, territoriale, etc. Alors, c'est devenu le coupable indiqué de tout ce qui peut être assimilé depuis les événements de septembre 2001 avec ce qui s'est passé dans les tours jumelles aux États-Unis.
Tout à fait.
Donc, tout cela est également donne une forte popularité de dire que c'est l'islam et c'est une stigmatisation. Même si les musulmans réagissent, ils disent que ce n'est pas ça. L'islam ne peut pas être assimilé à la violence et à la haine parce qu'aucune religion n'appelle à la mort gratuite, à l'assassinat ou à la violence.
Alors,
mais les Américains, ce n'est pas les Américains seulement, c'est le monde entier, c'est l'Occident, c'est également l'Afrique. Et partout, les gens se disent que cette religion-là, les tenants ne font pas l'effort de rappeler à l'ordre les uns et les autres qui utilisent le nom de Dieu
justement.
Pour toute forme de revendication.
Justement, je vais prendre le professeur Boubé Namaïwa depuis Dakar. Professeur, pourquoi est-ce que la religion musulmane est vue telle que le décrivait tout à l'heure le professeur Ahmad?
Oui, absolument. Le professeur a parfaitement raison. Il s'agit d'une image, malheureusement, encore une fois de plus, que les gens se font de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une association entre violence et islam. Ça, c'est un fait aujourd'hui. Et il a raison aussi de souligner qu'en fait, il n'y a pas de religion qui incite à des tueries. Mais malheureusement, encore une fois de plus, c'est à cause de l'action de quelques individus ou bien d'une frange de musulmans à travers le monde qui se réclament en tout cas de cette religion, alors que très souvent ce sont des revendications politiques que les gens essaient de masquer à travers le manteau de la religion. Donc il s'agit ici d'une image que projettent véritablement les musulmans à travers le monde. Les Américains ont peut-être parfaitement raison de pouvoir se méfier un peu parce que ils craignent quelque part l'instrumentalisation. De quoi je parle? Je parle par exemple du fait qu'on peut utiliser des musulmans locaux, endoctrinés, ou quelque part, si vous voulez, manipuler afin qu'ils agissent contre leurs propres frères. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui sur le continent africain, particulièrement dans le bassin du lac Tchad, et je pense que le professeur Ahmed du Tchad est en train de parler de cela.
Voilà.
En parlant de l'Afrique, c'est que souvent ce sont nos propres frères qu'on utilise, par exemple, pour se faire exploser ou bien pour égorger leurs propres frères musulmans ou même de la même nationalité.
Alors, pardonnez.
Ça, permettez-moi juste cela.
Allez-y. Oui.
Ils peuvent agir comme ça contre nous ici qui sommes leurs frères. Pourquoi, par exemple, des musulmans américains manipulés, endoctrinés ne peuvent pas faire la même chose avec leurs frères musulmans? De toutes les façons, il s'agit de quelque chose qui est totalement à la mode aujourd'hui. C'est une mutation que l'islam a connue. Et cette mutation, malheureusement, elle va encore faire des dégâts.
Alors, vous restez avec nous. J'aurai une dernière question pour vous. Mais vous parlez d'endoctrinement, vous parlez d'enseignement. Je vais introduire Imam Farouk. Vous vivez aux États-Unis, vous êtes imam. J'imagine quand les gens vous voient en route, on déduit tout de suite que vous êtes musulman. Déjà, quel regard est-ce que les Américains portent sur vous en tant que musulman et puis en tant qu'imam?
Bon, je voudrais dire, assalamu alaikum tout le monde, que la paix de Dieu soit sur vous tous. Mais d'entrée de jeu, je voudrais quand même qu'on corrige un peu la formulation. Mm. Ce ne sont pas les Américains qui se méfient de l'islam. C'est quelques Américains, des Américains qui se méfient de l'islam.
Je suis parfaitement d'accord avec vous.
Le premier des Américains, Barack Obama, ne se méfie pas des musulmans. Quand vous allez dans toutes les institutions aux États-Unis, j'ai eu la chance d'être à la Cour suprême des États-Unis, j'ai eu la chance d'être au Congrès, j'ai pu aller aussi au département d'État. J'ai fait beaucoup de rencontres dans les universités. Ce n'est pas les Américains qui se méfient des musulmans, c'est quelques Américains qui se méfient des musulmans parce que tout simplement, ils sont mal informés, mal renseignés. Et ceux qui utilisent les médias qui sont de droite et qui sont en détenu par les forces chrétiennes dans ce pays, qui oublient que ce pays est un état de droit, que la Constitution américaine ne fait pas de différence entre les citoyens américains, qu'on est d'abord citoyen américain ou résident aux États-Unis avant d'être musulman, avant d'être chrétien, c'est cela qui font l'amalgame entre l'islam et effectivement le terrorisme. Ces gens-là, il faut savoir les identifier, il faut savoir les démasquer. Et grâce à Dieu aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail dans ce sens qui est assez extraordinaire. Premièrement, savoir que l'islam n'est pas un État. Deuxièmement, savoir que l'islam aujourd'hui, même s'il est l'idéologie d'un État, il n'y a que deux États dans le monde entier qui se réclament de l'islam. Mais aucun de ces deux États, ni l'Arabie Saoudite, ni l'Iran, n'a entrepris contre aucun État dans le monde entier aucune guerre au nom de l'islam.
Alors, imam,
ceux qui sont là en tant que musulmans, ils sont des citoyens américains avant tout ou des résidents.
Imam Farouk.
Il y a trois catégories de personnes qui vivent aux États-Unis, les citoyens américains, les résidents et les illégaux. Mais vous ne verrez jamais dans ce pays des citoyens américains qui sont des musulmans, qui sont là depuis des siècles. Vous ne pouvez pas les stigmatiser parce qu'ils sont des citoyens. Il n'y a pas de test de religion ici dans ce pays-là. Donc je crois que c'est sur cette base qu'il faut aller et il faut éviter de faire l'amalgame entre les ambitions d'un homme politique qui veut accéder à la tête de l'État et la réalité que l'on vit dans ce pays-là.
Voilà, Imam Farouk, pardonnez-moi, mais il se fait que, généralement, on dit que ceux qui se radicalisent, c'est par le concours des gens, des leaders religieux, des imams notamment. Alors, comment pensez-vous qu'il n'y a que quelques Américains qui pensent que les musulmans sont des terroristes, entre guillemets, ou qui pensent que des musulmans sont des gens de qui l'on doit se méfier? Pourquoi pensez-vous qu'il n'y a que quelques Américains et que ce message soit si visible auprès de tout le monde? Imam Farouk?
D'abord, comme des chrétiens, et avant tout comme des chrétiens. Alors, vous allez prendre quelqu'un comme Jesse Duplantis, ou bien quelqu'un comme John Hager, ou bien quelqu'un d'autre comme Franklin Graham. C'est des gens qui sont là parce qu'ils pensent que les États-Unis, au lieu d'être un État démocratique, est un État chrétien. Et que les valeurs chrétiennes doivent être toujours le socle sur lequel ils doivent fonder toutes leurs actions, toutes leurs sociabilités, toutes leurs politiques, toutes leurs économies. Donc pour eux, l'Amérique est en train de changer à cause de la physionomie que l'Amérique est en train de prendre. Il y a beaucoup d'Hispanics, il y a beaucoup de Blacks, il y a beaucoup d'étrangers. Donc pour eux, l'Amérique est en train d'échapper aux Blancs qui sont des chrétiens, qui sont des protestants. Alors, ça se comprend très aisément qu'ils élaborent un discours qui fait croire que l'Amérique est en train d'appartenir à une autre catégorie de personnes ou à d'autres catégories de personnes. Je crois que ça, il ne faut pas manquer de le mettre en exergue. Il y a ça. Il y a en même temps des journalistes qui veulent que leurs médias soient suivis, soient toujours bien cotés. Alors, pour qu'ils puissent faire des affaires. Parce que, comme vous le savez très bien, le journalisme aussi, c'est le business aux États-Unis.
En tout cas, ce n'est pas le cas de la Voix de l'Amérique.
Voilà. Excepté la Voix de l'Amérique, et bien sûr. Bon. Maintenant, tous les médias ici, toutes les églises ici, elles font des affaires. Elles veulent avoir beaucoup plus de clients, faire beaucoup plus d'affaires. Donc, pour ça, quand il y a une religion dont le nombre d'adhérents augmente,
d'accord. Alors, je vais poser une question au professeur Boubé Namaïwa avant qu'il ne s'en aille. Professeur, vous vous souvenez quand même que même l'actuel président des États-Unis États-Unis, Barack Obama, lorsqu'il menait campagne, beaucoup avaient tenté de l'assimiler à un musulman.
Oui, bien sûr, mais cela aussi, c'est pas qu'ils ont tenté de l'assimiler, ils l'ont même assimilé à un musulman et certains ont commencé à émettre quelques craintes. Mais je dis encore une fois de plus que ce sont des craintes souvent injustifiées. Il est vrai et évident qu'on ne peut pas mettre tous les musulmans dans le même sac. La preuve, c'est que il y a des musulmans qui sont aujourd'hui totalement pacifistes et pacifiques, mais l'autre réalité aussi, c'est qu'il y a des musulmans, en tout cas qui se réclament de cette religion, même si on est prompt à dire qu'ils ne le font pas au nom de l'islam et qu'ils le font au nom de la politique. Il y a effectivement des musulmans qui aujourd'hui permettent à un certain nombre de personnes, et l'imam des États-Unis l'a dit, de l'extrême droite, qui essaie tout simplement d'exploiter cette situation. Autrement dit, si eux, ils ne donnaient pas la possibilité de le faire, manipuler qu'ils sont, endoctriner qu'ils sont, encore une fois, depuis, j'insiste sur la situation, et donc on n'aura pas eu cette image de la religion. Fondamentalement, encore une fois de plus, l'islam n'incite pas, par exemple, à tuer un autre musulman. Ensuite, l'islam considère que la vie même est sacrée, quelle qu'elle soit par ailleurs. Donc là, je ne vois pas de relation qu'on peut faire, c'est-à-dire stigmatiser l'islam dans ce sens. Mais le problème, c'est qu'encore une fois de plus, nous avons des co-religionnaires qui agissent dans ce sens-là et qui n'hésitent même pas à brandir le nom d'Allah sur des fanions, sur des drapeaux, etc.
C'est entendu. Et ça, c'est vous restez. Vous restez avec nous, professeur Boubé Namaïwa. Je vais vous laisser partir. Les autres invités restent avec nous. On se retrouve juste après cette pause.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Pour ceux des auditeurs qui prennent l'écoute de ce programme en ce moment, sachez que vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, aujourd'hui, nous parlons des musulmans aux États-Unis. Comment se sent-on quand on est musulman aux États-Unis et que pensez-vous de cette méfiance que certains Américains, finalement, on va dire, ont affiché à l'égard des musulmans? Alors, Madame Zainabou Touré, vous êtes une femme. Est-ce que vous êtes vue différemment en tant que femme musulmane, ici aux États-Unis, que toutes les autres femmes? Au-delà, du, au-delà du cadre professionnel que vous avez évoqué il y a quelques minutes, dans la vie sociale, quand vous passez dans la rue, est-ce que des gens vous regardent différemment?
Ah oui, ici à North Dakota, je peux le dire, bon, avec le hijab, parce que moi je porte le hijab, peut-être c'est quelque chose de nouveau pour eux. Il faut reconnaître que là où je suis quand même, c'est Williston, North Dakota, c'est à peu près à quelques miles du Canada. Ils sont un peu trop enclavés. Alors, dans la rue, bon, les gens te regardent, bon, ça arrive. Ça, c'est dans la rue, quand tu vas au supermarché, les endroits publics. Mais à l'hôpital, ça va.
Alors,
ça va, l'hôpital.
D'accord. Ouais. Alors, je vais prendre ces quelques réactions sur Facebook, celle de Maurice Dacelo Camara qui dit « Les musulmans doivent être prudents aux États-Unis. La plupart des terroristes sont de la religion musulmane. Ils doivent se méfier beaucoup. » Lui, il nous écrivait depuis la Guinée. Et puis, il y a cette autre réaction d'Idrissa Maïga Didri. Il dit « Y a-t-il une religion plus saine et plus solidaire, plus juste, plus tolérante et qui prône plus de paix que l'islam ?» Certainement non, dit-il. Le terrorisme est une autre religion qui ne dit pas son nom. C'est celle du contrôle du monde, des intérêts, d'exploitation de ressources, des pouvoirs, etc. Se méfier des musulmans est une injustice et un manque de considération de la part des Américains. On va ajouter de certains Américains. Alors, Imam Farouk, quand vous allez à la mosquée, lorsque vous avez l'occasion, qu'est-ce que vous dites à ceux qui viennent suivre vos prêches?
Effectivement, il y a deux catégories de personnes qui viennent, qui nous écoutent. Premièrement, les musulmans. Deuxièmement, les non-musulmans. Quant aux musulmans, ce que nous leur donnons, c'est l'enseignement authentique du Coran et de la Sunna. Et quand vous prenez l'enseignement authentique du Coran et de la Sunna, il y a un certain nombre de catégories qui sont définies, comme des entités qui sont définies.
la part de l'individu d'abord, la famille, la société civile et l'État.
D'accord.
Et chacune des catégories jouit d'un espace qui lui est propre. L'individu jouit d'un espace qui lui est propre en termes de droits et de devoirs. La famille jouit d'un espace qui lui est propre en termes de devoirs et de droits.
Merci. Merci, Imam Farouk. On va prendre, pardonnez-moi, on va prendre un autre imam qui nous a rejoint. C'est Imam Pape Mboub. Bonsoir.
Bonsoir, mon frère. Comment ça va?
Je vais très bien, merci. Alors, vous vivez également, vous, aux États-Unis. Est-ce qu'en tant que musulman, les gens vous regardent différemment? Est-ce que les gens se méfient de vous?
Pas du tout, pas du tout. Nous sommes très fidèles à la communauté diverse à laquelle nous appartenons. D'ailleurs, même hier soir, on a participé à un iftar avec toutes les communautés religieuses qui sont à Montgomery County. Et là où nous vivons, là où nous prêchons chaque vendredi, chaque jour, nous ne pensons pas être isolés, ni vus dans de mauvais état par n'importe qui. Donc nous sommes bien intégrés.
Alors, les discours politiques tels que celui de Donald Trump ne sont donc pas à prendre en compte, c'est ça?
Pas du tout, pas du tout. Je pense que l'Amérique est assez intelligente pour faire la différence entre un langage de campagne et un langage réel. Donc, ils disent que Donald a changé de discours à la veille des élections parce qu'il veut attirer et conquérir la communauté musulmane, les immigrants. Donc, ils disent qu'il aurait changé de discours, mais quoi qu'il en soit, ils pensent qu'Amérique est au-delà de toute considération qu'il puisse insinuer une ségrégation religieuse de ce genre.
Alors, Imam Pape Mboub, je vais vous poser une dernière question. Comment arrive-t-on à se radicaliser, comme c'est le cas de ce couple Farouk de San Bernardino? Très souvent, est-ce que vous avez une idée de comment on devient radical?
Il y a beaucoup de facteurs. Des fois, ils pensent le fait qu'on soit isolé, le fait qu'on soit très pauvre, qu'on se sente... brimé, il y a beaucoup de facteurs. Je pense que les facteurs économiques, sociaux et politiques sont des facteurs essentiels. Des fois, les gens sont motivés par une politique anti-américaine, si je puis dire, mais anti-occidentale, qui puisse les mener à ce genre de réactions. Des fois, c'est dû à des facteurs économiques qui se sentent brimés, qui se sentent opprimés économiquement, n'ont pas accès au luxe
des autres, évidemment.
Beaucoup de personnes, donc il y a beaucoup de facteurs.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas...
Religieusement, ça, c'est hors de l'islam.
Justement, à propos de l'islam, justement, est-ce qu'il n'y a pas un facteur religieux? Pardonnez mon ignorance, mais on a souvent entendu des gens dire que ceux qui se font exploser, on leur promet... un monde meilleur après la mort et qu'ils sont plutôt souvent contents d'aller mourir. C'est vrai ou c'est pas vrai?
Non, ça c'est pas vrai. D'abord, le suicide est condamné par l'islam. Tout acte suicidaire est condamné par l'islam.
D'accord. Merci. C'est entendu.
Également est contraire à l'islam.
C'est entendu, imam. C'est entendu. On va prendre Boubacar Ndoumbia. Ndoumbia, Boubacar, bonsoir.
Avec plaisir.
Voilà.
Bonsoir, monsieur.
Voilà. Vous vivez également aux États-Unis, vous êtes musulman et vous êtes, me semble-t-il, professeur d'anglais. C'est bien ça?
Oui, oui.
Alors, qu'est-ce que vous dites à vos étudiants quand ils vous regardent? Ils regardent le professeur d'anglais ou ils regardent l'homme musulman placé devant eux?
Bon, franchement, je ne suis pas en train d'exercer mon métier. J'exerce un métier ouvert aux États-Unis. C'est-à-dire, je suis taximètre ici. Et je croise beaucoup de personnes ici qui me posent des questions par rapport à la religion musulmane. À savoir, vous venez de brosser un point tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé, c'est-à-dire celui qui... Ou bien si vous avez d'autres questions, quoi, parce que vous avez brossé un point tout qui m'a intéressé, quoi. Je voulais en parler, si vous permettez. Au pire des
cas,
j'attends vos questions.
Allez-y. Voilà. En quelques secondes.
C'est suicidé au nom de Dieu, n'est pas pardonné, quoi.
Alors.
Même tuer un fœtus de 3 semaines n'est pas pardonné à l'islam.
D'accord.
Donc ceux qui se tuent au nom de cette religion-là, sont en train de nous créer des problèmes en salissant le nom de la religion.
Tout à fait. Alors, voilà. on va faire un dernier tour d'état puisque malheureusement on est pris par le temps. Je vais demander à l'imam Pape Mbob de dire un mot de la fin. Voilà, on me signale qu'il est parti. Alors, professeur Ahmad, un mot de la fin en quelques secondes.
Mais écoutez, moi je suis vraiment très ravi par cette émission et cet échange parce que je pensais que l'Afrique est une nation de tolérance, est une nation de paix et de coopération pacifique. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là de déstigmatiser une religion de pardon et de paix. L'Amérique doit rester le phare de l'humanisme et de la démocratie dans le monde.
Merci.
Il ne faut pas jouer à ce jeu de la collectivisation de la faute et de responsabilité de toute une communauté.
Merci, professeur.
L'Amérique ne gagnera rien du tout.
Merci, professeur Ahmad. Imam Farouk, le mot de la fin en quelques secondes, vraiment, on est pris par le temps.
L'Amérique est un pays très tolérant, mais il y a des hommes politiques, il y a des journalistes, il y a des professeurs qui ont des intérêts à défendre et ils ont le plein droit d'utiliser tous les moyens dont ils disposent pour dénigrer une religion.
Voilà.
Heureusement, nous avons la Constitution qui nous protège, nous avons l'État des droits qui nous protège, nous avons la séparation des pouvoirs qui nous protège et nous avons surtout Dieu qui nous protège.
Merci.
Donc, c'est tout ce que je peux dire.
Merci bien. Boubacar Doumbia, quelques secondes, le mot de la fin.
Comme une religion des parents, voilà. Des pères, quoi. Enfin, il faut que les gens comprennent cela, quoi.
Merci à
Dieu, même avec ceux qui sont patients.
Merci à tous nos invités. On est pris par le temps. Restez fidèles au programme de VO Afrique et voafrique.com. Fred était à la production, John Lydon à la présentation. Merci pour votre fidélité. Bonsoir.
Merci beaucoup, John Lydon.